Chapitre 8. Wiggins 2 bien arrivé à New York aujourd'hui. Le lendemain de son absurde et perturbante expédition au cimetière de Rock Creek, Henry James se réveilla avec la ferme intention de prendre des mesures immédiates sans trop savoir lesquelles. Il pourrait rentrer en Angleterre, ou bien aller trouver Henry Adams et lui avouer avec ses excuses les plus plates qu'il avait violé son sanctuaire. À aucun prix, le souvenir de ce lit dans le sarcophage de granit souterrain non loin du cercueil de Clover lui donnait encore la chair de poule. Il n'aurait jamais le courage d'en parler à Adams, ni même d'y faire allusion. Il ne dirait rien non plus à John Hay. Jamais. Par ce mardi matin pluvieux, James lava et tailla sa courte barbe, puis il s'habilla, regrettant pour la centième fois de ne pas avoir fait venir avec lui de Londres le couple qui le servait à Devere Gardens, bien que la femme soit assez mauvaise cuisinière et son ivrogne de mari un bien plus médiocre majordome encore. Il décida de demander à la fille un peu gourde de Madame Stevens de lui monter encore une fois son petit déjeuner dans sa chambre. Il partait à sa recherche dans le couloir quand surgit la dernière personne qu'il souhaitait voir. Sherlock Holmes, trempé par l'averse et peinant à se débarrasser de son imperméable. « Justement, je voulais vous parler !» s'écria Holmes avec une innocente bonne humeur, semblant oublier qu'ils avaient violé le secret le plus intime d'un honorable veuf pas plus tard que la veille. « Descendez prendre votre petit déjeuner avec moi. J'ai des choses à vous dire. Je comptais le faire monter dans ma chambre !» rétorqua froidement James. Holmes sembla peu perturbé par son ton glacial. « Mais non !» « Cela ira plus vite, James. Venez, descendez avec moi à la salle à manger, c'est plus simple. » « Je n'ai aucune intention de discuter des événements regrettables de la nuit dernière. » Holmes eut même le culot de sourire. « Mais parfait, moi non plus. La nouvelle que je vous apporte est beaucoup plus importante. À tout de suite en bas. » Holmes fit demi-tour avec sa vivacité caractéristique et pourtant étrangement élégante et descendit l'escalier 4 à 4, laissant dégouliner par terre l'eau de l'imperméable qu'il portait sur le bras. James s'arrêta en haut des marches. N'était-ce pas le moment de s'affranchir et de montrer à Holmes qu'il souhaitait prendre ses distances? Ou bien, poussé par la curiosité, allait-il apprendre cette nouvelle beaucoup plus importante? Finalement, la fin eut raison de ses arguments plus élevés et il descendit. « Je déménage de la confortable pension de Madame Stevens », annonça Holmes devant le petit déjeuner anglais complet qu'il avait convaincu leur logeuse de lui préparer tous les matins. Eux, haricots blancs et saucisses accompagnés de toasts grillés. James éprouva un choc. « Mais quand ?»«
Ce matin. »«
Pourquoi donc ?» Il regretta aussitôt sa question. Il ne voulait pas le savoir et de toute façon cela ne le regardait pas.
« C'est devenu trop dangereux. » répondit Holmes entre deux gorgées de café.
Habituellement, comme James l'avait observé, le détective ne s'intéressait nullement à la nourriture, mais il arrivait parfois, comme ce matin-là, qu'il engouffre ce qu'il avait devant lui comme s'il bourrait la chaudière d'une locomotive.
Je ne sais pas qui est venu fumer des cigarettes devant le monument hier soir, mais il est plus que probable qu'il s'agisse d'une personne qui nous y a suivis dans l'intention de me nuire, plus précisément de me tuer, continua Holmes en dévorant ses œufs. « Si je restais ici, je vous mettrais tous en danger. Vous, Madame Stevens, sa fille et toutes les personnes que je fréquente.
Mais il n'est pas du tout certain que l'homme de la nuit dernière soit un tueur, » protesta James, butant sur le dernier mot par trop mélodramatique.
« C'est exact. Rien n'est moins sûr, mais pour l'instant, je ne veux faire prendre aucun risque à mes amis. »
James fut ému par ce « mes amis » que Holmes venait d'employer. Il s'en voulut de s'attendrir. Il n'avait à aucun moment songé à inclure ce curieux personnage dans sa liste d'amis extrêmement stricte et contrôlée, et cette liberté que prenait Holmes de sauter les étapes était très présomptueuse. Et pourtant, ces mots lui faisaient chaud au cœur. Ayant terminé, Holmes alluma une cigarette. Il ne finissait jamais son œuf sur le plat, et c'était entre autres pour cette raison que James détestait prendre le petit déjeuner avec lui. Le détective éteignait invariablement sa cigarette en la plantant dans le jaune et laissait le mégot dressé tel un obus non explosé, une habitude répugnante qui donnait la nausée à Henry James.
« Je n'ai pas très faim ce matin, » mentit-il en repoussant son assiette, prête à se lever. « J'espère que votre nouveau logis vous donnera satisfaction.
« Attendez, attendez !» s'exclama Holmes en posant ses longs doigts de violoniste sur la manche de James. « J'ai autre chose à vous dire. »
James resta donc sur sa chaise, de plus en plus angoissé, voyant la cigarette de Holmes se consumer et le jaune d'œuf se figer lentement au milieu de l'assiette, semblable au centre d'une cible. Une seule chose le retenait de se lever. Il voulait savoir où serait Holmes, si c'était bien là la fin de leur absurde aventure. « Vous ne me dites pas où vous vous installez ?» demanda-t-il, s'étonnant lui-même de sa question directe. « Non, ce serait mieux pour tout le monde si vous ne connaissiez pas ma nouvelle adresse, James. » « N'insiste pas, se dit James. » Dans les derniers jours, il était déjà trop souvent sorti de sa réserve, mettant de côté le personnage d'auteur célèbre qu'il cultivait soigneusement depuis près de 50 ans. Il était temps de redevenir lui-même, le spectateur et non l'acteur, l'observateur qui laissait parler les autres. Et pourtant, il s'entendit demander « Vous allez quitter Washington, peut-être ? Je vous pose la question juste au cas où Adams ou je ne sais qui m'interrogerait. Si vous avez besoin de me parler, envoyez-moi un mot à cette adresse. » Holmes fit jouer le mécanisme de son porte-mine rétractable et griffonna quelques mots au dos de l'une de ses cartes de visite. James lut l'adresse. C'était celle d'un marchand de cigares installé sur Constitution Avenue. « Vous logez dans un débit de tabac ? » s'étonna-t-il. Holmes explosa de son rire bref et rauque. « Mais non, non, cher James, le buraliste se chargera de me faire suivre les messages par un gamin ou en m'envoyant un câble. J'ai choisi un marchand de tabac car ses boutiques sont ouvertes jour et nuit en Amérique pour une raison qui m'échappe. Vous pourrez communiquer avec moi quand vous voudrez. » James hocha la tête et glissa la carte de Holmes dans son portefeuille qu'il remit dans sa poche. Il allait prendre congé quand Madame Stevens apparut à la porte, suivie par un jeune garçon. « Ce petit messager vous apporte un courrier, Monsieur James. » Elle s'interrompit, ayant sans doute deviné l'indécision de l'écrivain, et ajouta « Je le connais. Il s'appelle Thomas. Il porte des messages pour beaucoup de familles très respectables du quartier de Lafayette Square. Si vous souhaitez envoyer une réponse par retour, vous pouvez la lui confier sans crainte. Il ne la lira pas et la livrera sans faute. » James hocha la tête, comprenant par cette phrase que le jeune Thomas, auquel il fit signe d'avancer, ne savait pas lire. Ayant déplié la missive, il vit qu'il s'agissait du papier à en-tête de John Hay. « Mon cher Harry, si vous voulez bien passer me voir aujourd'hui peu après l'heure du thé, mettons vers 17h15, je vous recevrai pour vous entretenir d'une affaire de la plus haute importance et sans doute urgente, dans l'attente de votre visite, votre dévoué serviteur John Hay. P.S. Je vous prie de ne pas informer Monsieur Holmes de votre visite. C'est très important. J.H. » Madame Stevens avait eu la prévenance d'apporter un bloc de papier à lettres au cas où James voudrait répondre. Il en fit bon usage. Cachant ce qu'il écrivait à Holmes, il accepta l'invitation de Hay et promit sa visite pour 17h15. Un horaire particulièrement précis, songea James, et John Hay vivait sous le signe de la précision et de la ponctualité depuis qu'il avait été secrétaire du président Abraham Lincoln. James tendit le message et une pièce au coursier en lui disant « Rapportez cela à l'envoyeur, mon garçon. » Thomas était peut-être un analphabète, mais il avait le regard fort intelligent. « Vous n'avez pas besoin de le payer, » protesta Madame Stevens. « L'auteur du premier message s'en est très certainement déjà chargé. » « Peu importe, » trancha James avec un signe de la main pour indiquer au garçon de filer. À cet instant, deux autres jeunes messagers furent introduits par la fille de Madame Stevens, qui ne semblait plus savoir où donner de la tête face à cette invasion. L'un des deux devait avoir environ l'âge de Thomas, mais était moins bien vêtu, l'autre, presque un jeune homme, portait la livrée des télégraphistes de la Western Union. « Un message pour Monsieur Holmes !» annonça le gamin en guenilles. « Un télégramme pour Monsieur Holmes !» lança le grand adolescent. Bien que prêt à partir, James resta par curiosité. Une fois que Holmes aurait déménagé, il était fort probable qu'il ne se reverrait plus jamais. Tous les questionnements liés aux événements curieux dont il avait été témoin ces dernières semaines risquaient de ne pas trouver de réponse. Holmes écrasa sa cigarette en plein milieu de son jaune d'œuf et James détourna les yeux avec un haut-le-cœur. Holmes lut le télégramme rapidement, le posa sur la table à côté de sa serviette et annonça pas de réponse au télégraphiste de la Western Union, qui toucha le bord de sa casquette et repartit. Il fit ensuite approcher l'autre garçon. Il prit le message, le parcourut, s'empara du bloc de papier que James avait utilisé pour sa propre réponse et déclara « Je reviens dans une minute, James. Je raccompagne notre jeune Mercure à la porte tout en écrivant ma réponse. » Madame Stevens et sa fille avaient quitté la pièce avec le télégraphiste. Resté seul, James entendit les pas de Holmes et du messager s'éloigner sur le parquet du hall d'entrée, puis le grincement de la porte qui annonçait qu'ils étaient sortis sur la véranda. Le mégot le narguait au centre du jaune d'œuf éventré. À côté de l'assiette, le télégramme abandonné par Holmes aimanta son œil. « Non, songea James, jamais je ne pourrai. » Il se leva comme s'il avait l'intention de remonter dans sa chambre, obliqua à droite au lieu d'aller à gauche, et ouvrit le rabat du télégramme du bout des doigts. « Wiggins 2, bien arrivé à New York aujourd'hui, stop. Scotland Yard et agences de renseignement ici et en France rapportent réactivation réseau Moriarty à Paris, Berlin, Prague, Rome, Bruxelles, Athènes, Londres, Birmingham, New York, Chicago et Washington, stop. Aucune localisation Lucan Adler ces 5 dernières semaines, stop. Prudence. Mycroft. » Entendant revenir Holmes, James lâcha vite le papier et se dirigea vers le fond de la pièce pour prendre l'escalier. Le pas rapide du détective passa du parquet de l'entrée au tapis du petit salon, et James levait le pied pour monter sur la deuxième marche quand Holmes déboula dans la pièce. Holmes avisa le télégramme, le plia et le glissa dans sa poche avec l'autre message sans sembler se préoccuper qu'il puisse avoir été lu. « Vous remontez dans votre chambre ?» demanda le détective. « Mon cher, vos pouvoirs de déduction sont stupéfiants. » s'exclama Henry James, éprouvant le besoin de remettre à sa place ce gentleman de pacotille. Loin d'en prendre ombrage, Holmes laissa exploser son rire rauque et leva sa canne, une canne épée, comme James l'avait constaté. « Alors, au revoir provisoirement, mais je suis sûr que nos chemins se croiseront de nouveau avant longtemps. » « J'ai l'intention de repartir pour l'Angleterre très prochainement », annonça James, s'étonnant lui-même car il n'était nullement parvenu à cette décision. Il porta sans y penser la main à la poche de son gilet, où la tabatière contenant un peu des cendres de sa sœur Alice s'enquistait comme une tumeur. « Dans ce cas, nous ne nous reverrons peut-être pas », répondit Holmes. Il disait cela d'un ton presque léger, presque gai, songea James avec amertume. « Adieu, camarade !» ajouta le détective en tournant les talons. Il sortit de la pièce et se dirigea vers l'entrée en sifflotant un air qui sembla vaguement familier à James. Une chanson qu'il devait avoir entendue à l'Old Mow, le music hall de Drury Lane. James se rendit compte qu'il était encore figé, le pied levé vers la deuxième marche, alors qu'il s'était écoulé près d'une minute depuis que la porte d'entrée avait claqué derrière Holmes. Il était resté pétrifié comme un homme surpris par le regard d'une gorgone. Plus grave encore, il comprit qu'il attendait que Holmes revienne et annonce qu'il avait changé d'avis et restait à la pension. Madame Stevens entra dans la salle à manger pour débarrasser et sursauta en voyant James à l'arrêt sur les marches. « Tout va bien, monsieur? Avez-vous besoin de quelque chose ?»«
Non, je vous remercie. Je remonte à ma chambre pour écrire un peu. »« Bonne journée, madame. »«
Bonne journée à vous aussi, monsieur. »
Elle resta là à le regarder gravir le raid d'escalier comme si elle avait été soudoyée pour le surveiller par Holmes, ou Mycroft, ou Moriarty, ou encore Lucan Adler. James ébaucha un geste pour frapper à la porte d'entrée de Hay. Il leva la main mais se ravisa et appuya sur le très moderne bouton de sonnette électrique. Il était très précisément 17h15. La matinée et le début d'après-midi n'avaient pas été faciles. Il avait essayé d'écrire, un premier jet au crayon à papier de la pièce qu'il avait promise à George Alexander, l'acteur et producteur de théâtre à succès, mais même si la pension de Madame Stevens était un endroit relativement agréable, c'était tout de même un lieu animé. Tout dérangeait Henry James, plus anxieux et irritable que de coutume. Les bruyants échanges entre des ouvriers et la gourde de filles, la visite de l'ancien studio de Holmes par deux hommes qui rivalisaient de superlatifs, et même les chantonnements de Madame Stevens quand elle repassait dans la buanderie ou qu'elle accrochait le linge sur le fil. Mille fois, il avait involontairement posé la main sur la tabatière en ivoire en se demandant que faire. Devait-il rentrer tout de suite en Angleterre? Devait-il aller au cimetière de Cambridge, près de Boston, où se trouvait la sépulture de la famille James, pour remplir enfin la tâche qu'il s'était assignée, c'est-à-dire finir d'enterrer les cendres de sa sœur sur le sol américain? Ou devrait-il plutôt aller rejoindre William et sa famille à Florence ou à Genève, où Dieu sait où ils étaient en ce moment? Il arrivait parfois à communiquer avec William, quoique rarement. En réalité, presque jamais. En attendant, il était heureux que John Hale ait prié de venir le voir. James avait l'impression d'être un homme tombé à la mer, auquel on lance une bouée de sauvetage exactement au bon endroit et au bon moment. Benson vint lui ouvrir et après avoir indiqué d'un geste au valet de prendre le manteau trempé de James, son haut de forme et sa canne, il conduisit l'écrivain dans le bureau de Hay. John, en l'entendant annoncer, releva la tête d'une énorme pile de papier et se leva aussitôt pour l'accueillir. Il s'empressa de faire le tour de la table et serra la main de James en lui prenant chaleureusement l'épaule. Un peu plus, il l'aurait serré dans ses bras, ce qui, bien entendu, aurait horrifié Henry James, mais ce geste amical lui redonna le sentiment de bien-être qu'il redoutait d'avoir perdu pour toujours.
« Comme je suis heureux de vous voir, Harry !»
Hay conduisit James à un confortable fauteuil. Il ne lui avait pas lâché le bras pour faire les quelques pas nécessaires. Quand James fut assis, Hay se jucha sur un coin du bureau. Il était encore très alerte pour un homme qui allait avoir 55 ans en octobre, songea James, pas pour la première fois.
« Eh bien, s'exclama-t-il, nous n'avons passé que d'un quart d'heure le rendez-vous des cinq de cœur, qui prenait le thé à 17h tapante, mais rien ne nous empêche de commencer avec un peu de retard. Le fantôme de Clover ne protestera pas, même si nous entendons frapper une ou deux fois sur le guéridon. Ou bien, passons directement au whisky si vous préférez. »
James hésita. Il était beaucoup trop tôt pour les alcools forts en ce qui le concernait, et d'ailleurs il buvait rarement de whisky, mais l'après-midi était si pluvieux et le feu si chaleureux dans l'âtre que l'idée ne lui déplut pas. Au contraire.
Est-ce un honnête whisky écossais ou bien la version plutôt bourbon du whisky orthographié à l'américaine avec un E ?
Hay éclata de rire.
De l'écossais, pur et dur, je vous le garantis, Harry. Je n'offenserai jamais vos nouvelles habitudes anglaises en vous offrant un whisky trop de chez nous.
Hay fit signe à Benson qui disparut comme par enchantement.
J'ai un quart du single malt, 12 ans d'âge, vieilli en fût de chêne, que je trouve meilleur que les whisky 21 ans d'âge d'ici,
continua Hay qui retourna s'asseoir derrière son bureau.
Son seul défaut est qu'on n'en trouve que là-bas, ce qui m'oblige à me déplacer en Écosse chaque fois que je vais en Angleterre, ou à demander les services d'un commissionnaire qui monte dans le Speyside pour l'acheter, me le met en caisse et me l'expédie.
« J'en goûterai avec plaisir, » dit James.
Il avait déjà bu des quarts du single malt 12 ans d'âge avec Paul Joukowski et même dans le salon de Lady Wolseley grâce à son mari le maréchal, premier vicomte Wolseley, celui-là même qui avait inspiré la caricature de général de l'opéra comique de Gilbert et Sullivan, les pirates de Penzance. Avant que Hay n'en vienne au fait, Benson fut de retour, apportant sur un plateau d'argent une carafe pleine et des verres à whisky en cristal, un siphon d'eau de Seltz, une cruche d'eau plate et une petite pile de sous-verres en cuir frappés de l'emblème du clan Hay. Le majordome se tourna vers l'écrivain d'un air interrogateur.
« Sec, merci », indiqua James.
« Juste une goutte d'eau comme d'habitude, Benson », dit Hay.
Quand ils furent servis et que Benson eut refermé discrètement la porte du bureau derrière lui, ils levèrent leurs verres et Hay porta un toast « Amicis absentibus ». James fut surpris. À la santé de quels amis absents buvait-il au juste, mais cela ne l'empêcha pas de goûter au whisky ambré. Il était excellent. James s'y connaissait assez pour l'évaluer, bien équilibré et une finale aux arômes doucement fumés, longue sans être entêtante. Un whisky sans esbrouf, comme c'était trop souvent le cas pour les single malt. James hocha la tête pour montrer qu'il appréciait le whisky, s'interrogeant en même temps sur la forme latine utilisée. Un ou une amie, plusieurs amis.
Harry, je vais aller droit au but,
dit Hay en se penchant vers lui par-dessus les papiers qui couvraient son bureau.
Clara et moi espérons que vous voudrez bien revenir vous installer chez nous pour passer le reste de votre séjour à Washington.
Cela a-t-il un rapport avec les événements d'hier soir ? James eut peur en sentant son cœur battre trop fort. Dans sa famille, c'était le cœur qui lâchait d'abord. Il reprit une gorgée de cardu pour se laisser le temps de la réflexion. Non, il était impossible que Holmes ait parlé de leur visite au cimetière et de leur intrusion dans le tombeau de Clover. D'ailleurs, il avait promis à James de cacher sa participation. Mais Holmes n'était pas un vrai gentleman et sa parole avait peu de poids.
« Pourquoi, John ? » demanda-t-il d'une voix faible. « J'ai suffisamment abusé de votre hospitalité. Vous devez apprécier votre tranquillité retrouvée.
C'est surtout Holmes que nous avons vu, ou du moins Holmes incarnant Jan Sigurdsson, l'explorateur norvégien. Amusant d'ailleurs. Mais Clara et moi regrettons de n'avoir pas vraiment eu le loisir de profiter de votre compagnie. »
James se rengorgea.
« À moins que vous n'ayez l'intention de repartir bientôt !»
continua Hay en se renversant dans son fauteuil et en avalant une gorgée rapide qui montrait qu'il n'appréciait pas uniquement l'alcool pour sa saveur.
Avez-vous l'intention d'aller à Cambridge, ou bien de retourner en Angleterre, ou d'aller à Paris ?
Pas pour l'instant. Je n'ai pas l'intention de partir tout de suite, dit James qui fixa ainsi une décision encore flottante.
Mais la pension de Madame Stevens est tout à fait suffisante pour mes besoins.
Hayes sourit sous sa moustache bien peignée.
Oh, suffisante pour un jeune parlementaire célibataire, peut-être, Harry, mais sûrement pas pour un écrivain. Vous écrivez, j'imagine.
Trop peu, songea James, trop peu. Mais n'avait-il pas pensé à se suicider à Paris en grande partie pour faire cesser la pression qui pesait sur lui ? Il imaginait son agent, les producteurs de théâtre, les éditeurs sous la forme d'oisillons au bec grand ouvert qui réclamaient leur pitance et qu'il ne rêvait que de laisser le bec dans l'eau.
J'ai très modestement commencé ma prochaine pièce,
avoua James en laissant percer son insatisfaction.
Quelques notes à peine.
Le sourire de Hay s'élargit.
Je pense vous avoir donné des chambres confortables à vous et à Holmes, mais je peux mettre à votre disposition un petit appartement particulier dans l'autre aile, tout au bout de la maison. Nous ne l'avons pas proposé la première fois, car vous auriez été un peu éloigné de l'escalier principal. Mais si vous voulez bien nous faire l'honneur d'accepter notre invitation, cet appartement sera votre refuge. Une chambre et un petit salon confortable au premier, avec des cheminées dans chaque pièce, bien entendu, et même une bibliothèque. Le carrelage très coloré autour de la baignoire vous plaira peut-être moins que celui de votre première salle de bain, mais le lavabo est en marbre, les robinets en argent, et je peux vous promettre de l'eau chaude.
James chercha comment refuser le plus poliment possible. Au fond, c'était surtout la proximité de Henry Adams et le souvenir de la criminelle indiscrétion de la veille qui l'empêchaient d'accepter.
« De surcroît, la petite pension de Madame Stevens a beau être charmante, » poursuivit Hay qui avait terminé son verre, « elle ne vous fournit certainement pas de valet de chambre aussi excellent que les nôtres.
Ah »« ben, certainement. »
marmonna James pris d'un fort sentiment d'étrangeté. Est-ce ainsi que se sent un personnage de roman quand l'auteur le manipule et le fait agir contrairement à sa nature et à la logique ? Il aurait voulu poser cette question à Holmes, et ce désir lui fit porter la main à la poche de sa veste où se trouvait la carte du détective avec le nom et l'adresse du bureau de tabac par lequel James pouvait le contacter.
« Et quand je vous promets un valet de chambre, » ajouta Hay en se penchant encore un peu plus vers lui, « je vous parle de Gregory, l'un de nos plus fidèles serviteurs. »
James se souvenait de Gregory, un homme de haute taille à cheveux blancs, digne et discret.
« Gregory, est-ce son prénom ou son nom de famille » demanda-t-il.
« Son nom de famille. Il se prénomme Terence, je crois. Gregory fera tout pour vous, et personne ne rase mieux que lui. »
« Cela me gênerait terriblement de vous importuner encore, Clara et vous. »«
Du tout ! D'ailleurs, cette fois, vous n'aurez pas d'obligation d'inviter, si je puis dire. Vous ne serez pas tenu de descendre dîner avec nous, de nous faire la conversation, d'être là au déjeuner, et ainsi de suite. Non, ce petit appartement sera votre domaine particulier, exposé au nord-est, donc peu soumis au bruit de la rue, mais pas trop. Notre fils d'elle l'a occupé quelque temps avant de partir à l'université, mais il a préféré réintégrer sa chambre. » Il s'y sentait perdu, c'était trop calme, trop grand à son goût.
Cette partie de la maison est peut-être hantée, songea James. Cette pensée le fit sourire. Il n'aurait rien contre quelques visites d'ectoplasme. Sa sœur Alice viendrait peut-être lui indiquer comment disposer au mieux des cendres qu'il avait subtilisées.
Et feront le ménage, mais seulement en votre absence, continuait Hay. On vous montrera vos repas et votre thé si vous le souhaitez. « Gregory sera votre chien de garde, et vous aurez bien entendu votre propre clé qui vous permettra d'aller et venir à votre guise sans déranger personne. »«
Je dois reconnaître que je me sens un peu seul chez Madame Stevens, »
admit James, cédant devant ses arguments. Il pourrait enfin se reposer et écrire.
« Mais bien sûr, d'autant que Monsieur Holmes vient de vous abandonner soudainement. »
Hay ne sembla pas remarquer le léger haussement de sourcils de James.
« Alors ?» C'est entendu, Harry ?
James fit signe que oui.
Parfait !
S'exclama Hay.
Je vais envoyer chercher votre malle et vos autres bagages par mes gens.
Une minute plus tard, ils se retrouvèrent devant la porte d'entrée ouverte, face à une giboulée de printemps chargée de bonnes odeurs d'herbe et de feuilles humides. Le brougham de Hay arriva. Gregory, assis sur le siège à côté du cocher qui l'abritait sous un parapluie rouge. Suivaient les garçons d'écurie avec la carriole pour les bagages, coiffés de casquettes de laine bordées de cuir, constellées de pluie.
« John, comment avez-vous appris que Holmes avait déménagé ?» demanda James. Il ne me l'a annoncé que ce matin. »
Hay sourit, lui donna une tape amicale sur l'épaule, puis ouvrit son parapluie pour l'accompagner à la voiture.
« Harry, Harry, ne sous-estimez pas la vitesse de propagation des nouvelles à Washington, surtout autour de Lafayette Square. La fille de votre logeuse, qui n'est pas une lumière, la pauvre, a raconté cela à notre valet de pied se battant au marché, probablement avant même notre réveil. »
James s'installa dans la voiture couverte qui sentait bon le cuir. Hay replia le parapluie et donna un petit coup avec le manche sur le siège du cocher.
« À tout à l'heure, Harry !»
James réfléchit pendant le court trajet. Il était tout à fait possible que la fille de Mme Stevens ait parlé au valet du départ de Holmes et que celui-ci l'ait mentionné aux autres domestiques, puis qu'à travers eux, Clara et John aient à leur tour entendu la nouvelle. Mais Henry James n'en croyait pas un mot.